Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Micro Rebelle pour l'émission Micro Rebelle Hebdo. Vous pouvez nous entendre sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Chaque semaine, nous vous proposons l'agenda et un reportage sur l'actualité sociale dans le bassin minier et au-delà. Sans attendre, je vous donne la parole à Jonathan pour l'agenda.
Bonjour à tous et à toutes, ici Micro Rebelle et je vais vous présenter l'agenda.
Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains. Tant ils maîtrisent si bien la nature.
Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel. Voyage dans les étoiles, embrasse le soleil. Tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scrute des racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences. En somme, comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces.
Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand.
Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route.
Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand.
Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas. Écoute les vibrations, la terre grondée et puis écoute le monde qu'ils ont détruit. Écoute tout ce qu'ils brisent de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature.
Apprends les raisons de tous ces gâchis, ils construisent tant de choses pour se détruire.
Pour commencer ce nouvel agenda, nous allons parler d'une exposition qui a lieu en ce moment au La Banque à Béthune. L'exposition s'appelle Dépenses, elle a lieu du 8 octobre au 26 février 2017. Alors Dépenses, qu'est-ce que c'est ? Ça s'inscrit dans un cycle d'exposition qui s'appelle La traversée des inquiétudes et c'est autour de la pensée de Georges Bataille, un écrivain français du XXe siècle. Et Dépenses, ce premier volet, donc il faut imaginer ça comme une trilogie, donc ce premier volet, Dépenses, c'est autour de l'œuvre qui s'appelle La part maudite, donc de Bataille, un livre écrit en 1949 qui est un livre de réflexion économique du monde et dans lequel Bataille développe l'idée qu'il faut consommer en fait l'économie. Et donc, la commissaire d'exposition du La Banque, Léa Bismuth, a préparé une exposition qui adapte librement la pensée de Bataille autour du livre La part maudite, avec 11 artistes qui ont créé des œuvres pour l'occasion autour de cette idée de consommer l'économie. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur Microrebelle, notre site, microrebelle.fr. Et dans l'onglet reportage, nous avons un long entretien d'une heure avec la commissaire d'exposition, Léa Bismuth, qui développe plus en détail toute cette réflexion qu'elle a menée autour de son exposition Dépenses et de la traversée des inquiétudes, donc ce cycle d'exposition, et de la pensée de Georges Bataille. Donc voilà, donc Dépenses, c'est au La Banque, du 8 octobre au 26 février. Donc allez-y pour découvrir justement cette nouvelle approche, enfin ou du moins cette approche originale de l'art contemporain, qui adapte librement un livre, une pensée d'un auteur, en l'occurrence Georges Bataille. C'est très intéressant, c'est innovant, original, et ça permet de décloisonner un peu l'art contemporain qui, dans la pensée du public reste un art un peu dans sa sphère, dans sa bulle. Ici, on retrouve un art qui se rapproche de problématiques locales, de problématiques humaines. Voilà, donc c'est Dépenses du 8 octobre au 26 février 2017 à Béthune, au La Banque.
Le 11 au 25 octobre, une exposition Oser le Polar, réalisée dans le cadre d'un atelier animé par l'artiste photographe Patrick Devres, lors du dernier salon du livre policier. Cette exposition aura lieu à la galerie du théâtre municipal Le Colisée, 12 rue de Paris à Lens. L'entrée est libre pour plusieurs renseignements. Vous pouvez téléphoner au 03 21 28 37 41.
Mercredi 12 octobre à 15h et à 18h30, à Salomines, il y a un spectacle à la Maison de l'Art et de la Communication. Un spectacle autour de l'humour qui s'intitule « Et vous trouvez ça drôle ?» point d'interrogation. C'est un spectacle qui interroge sur les différentes formes du rire, de l'humour. Une forme assez contemporaine de théâtre. C'est très intéressant. C'est joué au collège Langevin. Et c'est en fait proposé par la Maison de l'Art et de la Communication de Salomines. Alors l'entrée est libre sur réservation. Appelez au numéro donc le 03 21 67 00 67. Voilà, si vous voulez rire et découvrir les différentes formes et les significations du rire, qui peut aller de ce rire thérapeutique à ce rire d'ironie, d'humour noir, c'est pour vous. Donc le mercredi 12 octobre à 15h et à 18h30, deux représentations.
Le 14 octobre, toujours à 19h, un théâtre du nom de Les Pionniers, organisé par la compagnie Grand Boucan. L'histoire se déroule dans le monde du travail avec des témoignages de femmes, chauffeurs poids lourds comme plombiers. La CIE explore la nouvelle place des femmes dans le monde du travail. Ça se déroulera à Avion, Maison des Habitants, Place de la République. L'entrée est gratuite.
Alors le 15 octobre au LAG, il y aura un ciné-débat en présence de la réalisatrice Françoise Davis, qui a réalisé le film « Comme des lions », qui revient sur les 2 ans de lutte des ouvriers et salariés de l'usine Peugeot PSA, donc entre 2011 et 2013. Un débat sera organisé, bien sûr, avec la réalisatrice. Mais ça s'inscrit dans une petite tournée qui a été organisée pour Françoise Davis et son film « Comme des lions ». Vous pouvez la retrouver, elle et son film, le 13 octobre à Boulogne, au cinéma Les Stars, et le 14 octobre à Calais, à l'Alhambra. Vendredi 14 octobre à 20h, à l'espace culturel Grosmi, à Bruay-la-Bussière, il y a le spectacle « On n'est pas que des valises » par la compagnie Atmosphère Théâtre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, petit retour en arrière, dans le bassin minier, il y avait une usine, l'usine Samsonite, qui a fermé pour cause de dépôts de bilan et de tout plein de déboires liés à la gestion de l'entreprise par différents patrons, qui a amené donc à la fermeture de cette usine. Et les ouvrières et les ouvriers ont mené une lutte pour éviter que leur emploi disparaissent, et ça a été mis en film, cette lutte a été filmée plutôt, voilà, la lutte a été filmée par Hélène Desplanques dans un documentaire qui s'appelle Liquidation Totale, donc qui revient sur la lutte des ouvrières pour éviter de perdre leur emploi, lutte qu'elles ont gagnée. Et on voit dans ce documentaire tout ce procédé des AG, des différentes réunions avec notamment un avocat qui va défendre leurs droits à Paris et au tribunal d'Amiens. Ça a été un succès. Et puis elles ont voulu continuer parce que en fait, Samsonite est une entreprise américaine, pas que française. Du coup, il y a eu une lutte aussi aux États-Unis. Et ben, c'est tout ça qu'elles ont mis en théâtre dans le spectacle qui s'appelle On n'est pas que des valises. Alors le film, peut-être vous l'avez vu, peut-être vous en avez entendu parler, parce que au LAG, dans l'édition 2016, pardon, de Bobine Rebelle, le festival du film documentaire social, d'auteur et politique, a été diffusé Liquidation Totale, avec la présence d'Hélène Desplanques et la présence aussi d'ouvrières qui ont pu expliquer au public leur ressenti, leur émotion vis-à-vis de cette lutte. Et donc le spectacle, On n'est pas que des valises. Donc là, c'est la représentation qui a lieu à Brué donc le 14 octobre à 20h à l'espace Grosmi. Mais il y a eu une première à Avion déjà. La première a eu lieu le 30 septembre. Alors c'est un spectacle qui fait beaucoup d'émoi. Il y a beaucoup de communication parce que c'est très original de faire une lutte, de mettre une lutte en scène. Donc vous allez trouver plein d'informations sur Internet, hein, sur ce spectacle, sur Hélène Desplanques, sur les ouvrières. Donc n'hésitez pas à vous informer et n'hésitez pas surtout à y aller. Voilà. Donc c'est On n'est pas que des valises, le 14 octobre à 20h, à l'espace Grosmi à Brué-Labussière. Vendredi 14 octobre, toujours, mais cette fois-ci pour du cinéma. Donc c'est à 18h30 à Carvin au lycée Diderot. C'est un ciné-soupe. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir une projection de courts-métrages qui vont dans tous les genres, dans toutes les émotions. Et puis, à l'issue de cette projection de court-métrage, vous allez pouvoir discuter, faire des petits débats autour d'une soupe et en compagnie du public présent. Voilà, c'est convivial, c'est intéressant, c'est gratuit. C'est au lycée Diderot à Carvin le vendredi 14 octobre. À 18h30, n'hésitez pas à y aller.
Le vendredi 14 octobre au dimanche 16 aura lieu le 4e festival de anti-pub de dépollution mentale à Lille. Organisé par Lumière du Nord et le collectif des déboulonneurs de Lille, il y aura des conférences, débats, des ateliers et de la projection. Vous pouvez vous renseigner sur les différents horaires sur cerveau-du-6-disponible.fr. Le 14 octobre au 26 novembre, dans le cadre de sa saison culturelle, la communauté de communes de la région d'Audouic programme 2 semaines de cirque, cinéma, marionnettes, théâtre, contes et musique pour les plus jeunes de 18 mois et 4 ans. Ce festival s'intitule Les Pestacles des enfants. L'entrée est gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83.
Dimanche 16 octobre à 16h, il y a de la danse à Neulémine, dans le cadre des dimanches de Kino. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, Ladislas Kino, c'était un peintre polonais naturalisé français après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une figure importante de la peinture informelle, donc qui est un courant artistique qui se situe en marge du cubisme et du surréalisme. C'est beaucoup d'abstraction, pour résumer rapidement. Et Ladislas Kino, c'est un peintre qui a expérimenté différentes formes, différentes techniques. Donc, il a travaillé sur le papier froissé, il a travaillé à l'aérosol, ce qui en fait un des pères spirituels du street art. Et en 2010, il fait don à Neulémine, une ville dans laquelle il a vécu dans les années 20. Il fait don de 21 œuvres. Et il décède 2 ans plus tard, en 2012. Et en 2016, la ville décide de lui rendre hommage et de présenter aussi au public les œuvres qu'il a léguées à la ville. Et la ville donc de Neulémine a organisé 3 rendez-vous, qu'elle a appelés les dimanches de Kino. Et le 16 octobre, il y a un de ces rendez-vous donc autour de la danse, avec 3 artistes. Nathalie Baldo, qui est une danseuse de la compagnie lilloise La Pluie qui tombe. Alejandro Pablo Russo, qui est un Argentin et qui a rejoint cette même compagnie en 2016. Et un musicien, improvisateur, Christian Vasseur, qui ont repris un geste du travail de Kino, donc le papier froissé, et qui ont créé comme ça une petite performance autour de la danse avec de la musique, une petite chorégraphie musical. Voilà, donc c'est le 16 octobre à 16h. C'est un spectacle ouvert à toutes et tous et c'est gratuit. C'est à Neuilly-Mines. Donc le titre du spectacle, c'est la dynamique du froissage. Voilà, donc ça évoque le papier froissé de Ladislas Quino. Voilà, dimanche 16 octobre à 16h à Neuilly-Mines. Le 17 octobre, au Cinéma Vida d'Arras, dans le cadre des Journées de l'eau 2016, un ciné-débat est organisé par Au Secours 62 autour du documentaire Fleurs du futur de Bravoda, réalisé par Valérie Valette. Alors, c'est un film qui s'intéresse à l'importance des petits cycles de l'eau et qui pose la question du rétablissement hydrique et thermique sur les continents. Donc, c'est un documentaire qui a l'air vraiment très intéressant, tourné vers des questions qui nous touchent toutes et tous. Voilà, donc c'est le 17 octobre à 20h au Cinéma Vida.
Le dimanche 22 octobre, une formation de Au Secours 62 aura lieu au LAG. Cet événement est ouvert à toutes et à tous. Cette formation sera sur le thème des différents rapports du délégataire de 10h à 13h. Une soirée débat avec Jean-Marc Rouillon, projection vidéo et présentation de son dernier livre de 19h à 23h au LAG. Le livre que Jean-Marc viendra présenter s'intitule « Je regrette ».
Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand.
Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Regardez, écoute les hommes, mon fils, regarde-les. En ouvrant bien tes yeux, écoute-les. Avec toute ta raison, avec discernement. Car on ne peut comprendre autrement actuellement. La société des hommes est divisée en classes. C'est leur position dans la production qui détermine leur place. Il y a ceux qui produisent les richesses. Et puis ceux qui possèdent les richesses.
Dans ce système, vois avec quelle modernité. Les hommes oppriment d'autres hommes. Les nations oppriment d'autres nations. Parce qu'une minorité a pris le pouvoir par la ruse et par les armes, d'un côté les maîtres et tout ce qu'ils prisent, avec eux les traîtres corrompus sous leur emprise. De l'autre côté les êtres qui subissent les crises, avec ce qu'ils font naître et tout ce qu'ils maîtrisent. Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand.
Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route.
Sème des graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand.
Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Et tant que l'impérialisme existera, viendront les guerres, viendront les injustices, viendra le sang. Il en est ainsi, il n'y a pas de surprise. Et quand tu le sauras, mon fils, il n'y aura plus de surprise.
Et voilà, l'agenda est terminé pour aujourd'hui. Restez avec nous pour le reste de notre émission. La musique que vous avez écoutée tout le long de l'agenda s'intitule « Pour mon fils » par Soul Connection.
Merci Jonathan. Nous sommes toujours dans Micro Rebelle Hebdo, une émission de Micro Rebelle. La suite, un reportage sur les impacts du numérique, impacts sociaux et environnementaux, ses conséquences sur nos vies.
Ils fabriquent la richesse du monde sur leurs maigres échines. Ils font partie de ce qu'on appelle les moyens de production. Ils sont partout dans le monde, dans les usines, sur les routes, dans les chantiers, dans les champs, dans les chansons. Ils sont dans les ateliers, chez les petits patrons,
ou sur les grandes chaînes de montage, chez les grands patrons.
Il est ouvrier,
elle est femme de ménage,
elle est employée,
ou il est au chômage.
Ils ou elles font la même chose.
Ils travaillent ou ils cherchent du travail.
Ils travaillent souvent pour un maigre salaire, juste quoi alimenter leur maigre misère. Ils travaillent évidemment pour gagner leur vie,
et souvent ils la perdent trop tôt aussi.
Ils ne possèdent rien à part leur force de travail.
Ils ne possèdent rien,
et pourtant ils marchent.
sont ignorants, mais peu sont imbéciles. Beaucoup sont intelligents, mais beaucoup sont serviles. Beaucoup ont de la dignité, mais certains l'ont vendu. Vivent du trafic et du deal, et en sont exclus.
Beaucoup sont honnêtes et font ce qu'ils peuvent.
Beaucoup font la fête pour oublier ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup sont alcooliques
et finissent raide comme une branche. Profitent de la retraite entre quatre planches.
Beaucoup sont fatalistes,
beaucoup sont réalistes.
Beaucoup sont idéalistes,
beaucoup sont matérialistes.
Beaucoup sont absentéistes parce que certains brûlent les pistes. Mais tous souffrent du système capitaliste. Chacun pour chacun et chacun fait de son mieux le comble. Ils sont seuls et pourtant si nombreux. Sans unité, une masse difforme et un mauvais mouvement. Pas d'orientation et pourtant ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Certains pleurent,
certains rient, certains sont perdus donc.
Certains prient, certains sont soucieux,
certains sont anxieux,
et certains sont combatifs,
et certains sont peureux.
Certains sont cocus, certains sont vieux garçons, certains sont amoureux,
dévorés par la passion.
Certains sont sportifs,
et pas grand chose dans le cerveau.
D'autres sont des cerveaux, mais complètement chétifs.
Certains sont papy, mamie, papa, maman.
D'autres élevés à la DAS, sans parents. Y'a des cœurs durs, des cœurs pris, des cœurs gros. Y'a des ordures, des murs gris, des corbeaux. Y'a des endettés et des entêtés. Des enfants dégoûtés qui ne partent pas l'été. Y'en a même qui disent qu'ils sont heureux, mais écoutez-les. Ouais, tous reconnaissent qu'ils sont exploités.
Tous reconnaissent qu'ils sont exploités.
Et pourtant,
ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils marchent, ils ne possèdent que leurs bras, ils marchent, mais ils ne sont pas unis, ils marchent, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils marchent, c'est une question de survie, ils marchent, ils ne possèdent que leurs bras, ils marchent, éparpillés des milliers, des millions, ils marchent, et cherchent des perspectives, il y a ceux qui font partie du peuple et les ennemis.
Le reportage qui suit a été réalisé à partir de l'intervention de Bruno Poncelet au débat Pensée ensemble de CLIS 21 les vendredis 30 septembre et samedi 1er octobre. Les débats Pensée ensemble se tiennent à l'invitation de la coopérative CLIS 21 au LAG, le lieu autogéré de Liévin, et à l'auberge espagnole à Mont-Saint-Barreul. Le LAG et l'auberge espagnole sont deux espaces dans lesquels CLIS 21 intervient. Bruno Poncelet est chercheur et syndicaliste, et ses travaux l'amènent à se poser la question de l'impact des nouvelles technologies. Par impact, Bruno Poncelet évoque les conséquences sociales, environnementales et, d'une manière générale, sur tout ce qui touche à nos vies. Nous allons tout d'abord entendre le ressenti de Julien, qui participait pour la toute première fois à un débat « Penser ensemble ».
Salut. Alors voilà, j'ai gentiment été convié à un topo, à une réunion à l'auberge espagnole à Mont-Saint-Barreul ce samedi matin. J'ai passé un très bon moment. Il s'agit de participer à un débat très intéressant sur l'évolution des nouvelles technologies et sa présence dans notre vie de tous les jours. Et voilà, c'était un topo qui a été mené par Bruno, qui était un topo très 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 enrichissant. Voilà, et puis on a pu débattre d'une manière constructive avec toujours cette recherche d'optimisation, de recherche de solutions au cœur de ce petit groupe. On a pu refaire le monde à notre sauce, et donc c'était un très bon moment.
Si tu avais une idée ou un axe à retenir, ce serait lequel?
Alors c'est un axe qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment on peut réhumaniser la société dans laquelle on vit actuellement. C'est peut-être un peu utopiste, mais l'idée c'est effectivement de remettre l'humain et ses valeurs au cœur de la société et ne jamais perdre de vue que l'humain a de très belles valeurs et voilà, il faut les mettre en lumière.
Je vous propose maintenant d'écouter Bruno Poncelet au travers de quelques extraits de ses interventions.
Alors j'avais expliqué que plusieurs journalistes avaient fait une expérience de travail chez Amazon pour pouvoir parler des conditions de travail chez Amazon. Et dans tous les cas, elles sont effarantes. Et donc je vais prendre le cas, puisqu'on est en France, de Jean-Baptiste Mallet, qui est un journaliste français, qui est allé travailler plusieurs mois chez Amazon.
Donc, de la revue Goliath. Hein.
Oui, donc lui, son but, c'était vraiment de pouvoir dire comment ça se passe. Et donc, il s'est fait engager. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, quand tu es engagé chez Amazon, donc il était engagé pour travailler de nuit, et son boulot était d'aller chercher dans les entrepôts d'Amazon les colis qu'on devait envoyer, enfin, les différents produits qui devaient être envoyés aux personnes. Donc, lui allait dans un immense hangar chercher les produits. Ce qu'il racontait, c'est trois choses. Première chose, entre le moment où tu pointes chez Amazon et le moment où tu arrives sur ton lieu de travail, la pointeuse est à l'entrée du bâtiment, ton lieu de travail, tu fais un quart d'heure de couloir et de contrôle pour voir que tu n'emportes pas de marchandises avec toi. Et bien donc, entre le moment où tu commences à pointer et le moment où tu commences réellement ton travail, il peut s'écouler un quart d'heure. Donc ça veut dire que tu vas arriver dans le hangar pour venir travailler, tu vas passer un quart d'heure de contrôle de sécurité, puis tu vas seulement arriver à la pointeuse. Donc si tu arrives devant le bâtiment à l'heure de ton début de travail, tu es déjà systématiquement en retard. Donc tu es obligé d'arriver avec un quart d'heure d'avance qui n'est jamais comptabilisé dans ton temps de travail. Ça, c'est une petite tricherie. Deuxième chose, son boulot...
Une petite tricherie multipliée par un grand
nombre d'employés. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, c'est une petite tricherie qui est devenue tellement courante. Maintenant, elle est évidemment catastrophique, hein, on est bien d'accord. Moi, je travaille dans un syndicat en Belgique, c'est catastrophique. Mais je vais dire, c'est encore une petite tricherie dont sont capables beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais c'est une petite tricherie en regard du reste. Donc le reste, c'est quoi? C'est que quand tu es quelqu'un qui va chercher les produits chez Amazon... Tu dois prendre un petit scanner qui, en fait, va te donner tes instructions de travail. C'est lui qui va te dire, mais voilà, tu vas maintenant dans les 22, le rayon B, le produit Intel, tu vas chercher ça. Dès que tu l'as produit et que tu l'as scanné, il te dit, ah, maintenant, tu vas au rayon 15 prendre ce produit-là. Autrement dit, tu es dans un travail qui est abrutissant parce que tu ne réfléchis absolument plus à ce que tu fais. C'est la machine qui te dit étape par étape ce que tu dois faire. Et surtout, cette machine encode le moindre de tes déplacements, le nombre de produits que tu collectionnes dans ton temps de travail, et évidemment compare ces données-là avec l'ensemble des autres travailleurs. Donc tu es mis dans un système où ta manière de travailler est encodée par des logiciels informatiques et où à tout moment on peut te comparer aux autres pour te dire « Ah ben écoute, tu es plutôt au-dessus ou en dessous du lot. » Et si tu es en dessous du lot, tu as intérêt à redresser la barre. Je disais même que c'était encore plus catastrophique que ça, puisque la machine enregistre tes performances de travail tous les jours. Donc tu es dans un système où tu es mis en concurrence avec les autres travailleurs, mais tu es carrément mis en concurrence avec ta propre productivité à toi. Ça veut dire que si un jour tu travailles un peu moins bien, eh bien directement le scanner va se rendre compte que tu travailles moins vite qu'avant, et donc directement il va pouvoir lancer un message d'alerte à la direction qui va venir te trouver en disant « Et c'est quoi ça ? C'est... Faut un peu dresser la barre. » quoi. Donc c'est quand même un système du marche ou crève. Ça veut dire que tu dois toujours être au taquet, toujours être ultra performant, parce que le jour où tu ne l'es plus assez, directement les logiciels le repèrent et peuvent te mettre de côté. Or, ce travail-là, et c'est le troisième dernier point qui me semble important de développer, il est hyper abrutissant. Et donc je disais que notamment Jean-Baptiste Mallet était un journaliste qui avait donc la facilité et la faculté de lire et d'écrire. C'est quelqu'un qui lit facilement et qui écrit facilement, c'est son boulot. Eh bien, il a décidé d'arrêter prématurément son expérience à Amazon quand il s'est rendu compte que rentrant de sa nuit de travail, il devenait incapable de mettre sur papier ce qu'il avait vécu. Parce que pour lui, c'était évidemment important de mettre sur papier ce qu'il avait vécu dans le but de faire son bouquin. Mmh. Eh bien, le jour où lui s'est rendu compte qu'il était tellement abruti par son travail qu'il devenait incapable de mettre des mots correctement alignés sur un papier, il a décidé d'arrêter.
Il est parti.
Pour moi, ça dit tout des conditions de travail chez Amazon. Donc voilà, alors je suis pas là pour défendre d'autres entreprises, la Fnac ou d'autres, mais simplement ce que je veux dire, c'est que quand on développe un Amazon et du commerce en ligne, on développe aussi des conditions de travail qui sont ignobles, tant en termes de salaire qu'en termes de conditions de travail, mais surtout à chiffre d'affaires égal, donc pour 1000 bouquins vendus, Amazon emploie infiniment moins de monde que la Fnac, qui est le même employé déjà infiniment moins de monde qu'un libraire indépendant.
Bien sûr.
Donc plus on rentre dans une logique de commerce en ligne, par exemple d'Amazon ou d'autres, hein, parce qu'ils ne sont plus les seuls sur le marché, et bien plus on promeut de l'emploi dégueulasse et plus on promeut de la suppression d'emplois. Et ça, je pense que c'est un des aspects importants dans ce que j'ai discuté aujourd'hui avec les gens qui étaient présents, c'est que l'industrie numérique, c'est une industrie qui nous impose toute une série d'objets, de besoins, de nouvelles possibilités, mais c'est aussi une entreprise qui souvent nous fascine, et si la vente en ligne se développe, c'est pas seulement parce que les entreprises la proposent, c'est parce qu'aussi toute une série de consommateurs se disent « Ah, je préfère ça et c'est beaucoup plus sympa ». Ben moi, je voudrais dire aux gens qui achètent en ligne, réfléchissez quand même un peu aux conséquences sociales que ça a et aux conditions de travail que ça promeut, parce que vous êtes en train de favoriser un système qui est en train de détruire l'emploi et donc de favoriser la pauvreté, donc de favoriser la violence. Et finalement, vous êtes en train de favoriser à votre petite échelle un monde qui, moi, ne me semble pas spécialement sympathique.
C'est clair. Peut-être le troisième point que tu évoquais, c'est donc les questions de vie démocratique, hein, qui concernent à la fois la vie privée et d'une manière générale la politique finalement.
Alors oui, la vie privée, parce que ben on le sait déjà, hein, aujourd'hui avoir un smartphone, enfin moi j'en ai pas, j'ai pas de téléphone portable, mais avoir un smartphone aujourd'hui, on est géolocalisable en permanence. Ça veut dire que les gens qui gèrent le GPS de votre téléphone portable peuvent dire en permanence où vous êtes. Les gens ne le savent pas, mais quand vous avez un smartphone équipé d'un micro et d'une caméra, vous faites des photos, c'est bien sympa, mais en fait, si jamais quelqu'un de malveillant, un hacker par exemple, voire éventuellement l'entreprise qui gère votre logiciel, décide d'activer cette caméra ou ce micro à votre insu, c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui, vous portez sur vous des objets qui sont tout à fait susceptibles de vous espionner, pas seulement en termes de localisation, mais aussi en termes d'écoute de ce que vous êtes en train de raconter, par exemple quand vous êtes chez vous avec votre copain ou votre copine ou vos enfants.
Ou les choix d'achat.
Voilà. Et donc ça, on a déjà aujourd'hui à travers le smartphone un petit objet qui est un outil, alors que quasi tout le monde possède aujourd'hui, mais qui est déjà un outil d'intrusion massive dans la vie privée. Il faut savoir, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, que l'ambition de l'industrie numérique, et donc je parle de gros acteurs, mais notamment d'un lobby qui s'appelle Global System One, donc GS1, est demain de rendre tous les objets interconnectés. Autrement dit, d'équiper tous les objets d'une petite puce qui communique par une petite puce numérique qui communique par onde radio, on appelle ça des puces RFID pour radiofréquence identification, qui va faire en sorte que tous les objets vont rentrer en communication les uns avec les autres. Mais donc ça veut dire que dès que vous achèterez un vêtement, une peluche pour vos enfants, un bouquin, enfin n'importe quel objet que vous achèterez sera interconnecté via cette puce qui communique par onde radio, et elle sera interconnectée avec Internet, un Internet des objets, à laquelle elle pourra donner des informations. Ah ben voilà, tiens, la personne qui me promenait aujourd'hui, il est allé me promener à tel endroit, et finalement, où il m'a donné à telle personne. Mais elle pourra aussi recevoir de nouvelles instructions. Autrement dit, demain, on va être appelé à vivre, en tout cas si cette tendance-là se confirme, on va être appelé à vivre dans un monde où le moindre objet qui nous entoura sera un objet qui va encoder les moindres faits et gestes de notre vie quotidienne. Et ça, c'est inquiétant, parce que la vie privée, je le rappelais tout à l'heure, c'est une liberté fondamentale. Et pourquoi est-ce que c'est une liberté fondamentale? Parce que l'histoire des sociétés nous a appris que quand on ne protégeait pas la vie privée des individus, toute une série d'acteurs malveillants, ça pouvait être des dictatures à une certaine époque, utilisaient les données privées des gens, mais par exemple pour repérer, alors je prends l'exemple, mais tous les gauchistes, et pouvoir les arrêter massivement et pouvoir éventuellement les faire passer de vie à trépas. Ça s'est passé dans pas mal de dictatures, notamment en Amérique du Sud. Donc la vie privée, c'est quelque chose de fondamental. Et bien aujourd'hui, l'ambition du secteur numérique est de développer un Internet des objets, autrement dit, des objets qui s'interconnectent, et donc où on va tous être dans des phases de communication voulues ou non voulues avec tous les objets qu'on achètera. Et ces objets vont être capables d'encoder nos moindres faits et gestes. C'est impossible de maintenir une vie privée digne de ce nom dans ce cadre-là. Et c'est pourtant l'objectif à la fois de l'industrie numérique, qui espère comme ça beaucoup mieux cerner nos besoins de consommateurs et repérer nos failles, nos faiblesses, pour mieux pouvoir cibler ses publicités sur nos points faibles, justement, et donc nous pousser à l'acte d'achat. C'est plus efficace, si je connais ton point faible, de te dire achète ce truc-là qui te tente vraiment, plutôt que de te proposer un truc qui ne te tente pas du tout. Ça, c'est le premier volet. Et ça intéresse aussi un autre acteur particulier, ce sont les services secrets des États, qui évidemment, eux, espèrent, alors ils vont dire qu'ils espèrent repérer les méchants terroristes, en fait ils espèrent aussi pouvoir taper des profils politiques, des profils sociologiques de la population, à la fois pour repérer éventuellement des gens qui sont dangereux pour la sécurité publique, mais aussi parfois des gens qui ne sont pas du tout dangereux pour la sécurité publique, mais qui sont en train d'agir dans la norme qui n'est pas la norme politique du moment, hein, autrement dit des gens qui sont plutôt, qui sont simplement des opposants et qui dans une vraie démocratie devraient être qualifiés de gens, de citoyens à part entière, mais qui là vont être vus comme des citoyens à surveiller de près. Et donc ça pose beaucoup de questions. Et donc ça pose beaucoup de questions parce que il y a énormément d'interconnexions entre le monde marchand, donc le monde des entreprises privées, des empires marchands qui promeuvent l'industrie numérique, et le monde politique. Et donc c'est là-dessus que j'ai terminé tout à l'heure en disant que si aujourd'hui on a comme ça toute une série de nouveaux objets qui semblent tomber du ciel, hein, les smartphones, les nouvelles applications, etc., c'est évidemment parce qu'il y a l'industrie qui travaille dessus. Mais c'est aussi parce que l'industrie travaille, et ça on ne le sait pas, travaille intensément à convaincre le monde politique d'instaurer toute une série de nouvelles réglementations ou de nouvelles techniques d'interconnexion pour les objets interconnectés, qui est un travail de l'ombre que personne ne connaît. Ça veut dire que pour que l'industrie numérique se développe, il y a évidemment besoin que les consommateurs réagissent positivement, il y a besoin que l'industrie numérique invente des nouveaux objets, mais il y a aussi besoin d'un acteur politique qui rende cela possible. Et aujourd'hui, et ça on ne le sait pas, mais à travers toute une série de décisions européennes, l'industrie numérique est en train de développer vraiment le fait d'imposer aux gens le fait d'aimer les nouvelles technologies. Et donc tout à l'heure, je parlais d'un programme politique qui s'appelle Europe 2020. Il faut savoir que ce programme politique Europe 2020, il est fait par l'Europe, donc il se décline à chaque échelle nationale, en France, en Belgique, en Angleterre, etc., etc. Mais il est décidé à l'échelle européenne, et il a été décidé à l'échelle européenne parce que l'industrie numérique en a fait la demande à l'Europe, au monde politique. Et le monde politique a accepté de suivre cette logique-là, et par exemple a développé comme objectif dans Europe 2020 le fait de promouvoir l'usage d'Internet. Mais donc l'idée, c'est que 100% des gens dans chaque pays européen soient connectés à Internet. Parce que si demain tu inventes des objets interconnectés, il faut que les gens soient interconnectés. Le but, je l'ai expliqué aussi, c'est de convaincre par exemple 50% de la population de faire, plutôt que d'aller voir leur administration pour demander des papiers d'identité ou pour aller faire une démarche administrative, c'est plutôt que les gens le fassent par Internet.
La e-administration.
Voilà, ce qu'on appelle l'e-administration. Le but, c'est quoi? C'est évidemment de faire en sorte que les gens s'habituent de plus en plus à passer par une plateforme web plutôt que d'aller physiquement voir quelqu'un qui travaille à l'administration. Parce que dans l'objectif de supprimer des emplois dans l'administration et dans la fonction publique, c'est évidemment pratique que les gens n'aillent plus dans l'administration.
Bien sûr.
Mmh. Et alors, j'ai insisté aussi sur l'autre aspect, c'est qu'on est en période d'austérité, et pourtant, donc on dit moins de sous pour l'enseignement, moins de sous pour les transports publics, moins de sous pour la sécurité sociale et donc la santé, le droit d'accès à la santé. Eh bien, très paradoxalement, cette période d'austérité publique promue par l'Europe et développée par l'Europe, défendue par l'Europe qui dit « vive l'austérité hein », eh bien, l'Europe, en matière numérique, elle ne dit pas vu l'austérité. Elle dit au contraire, il va falloir que les acteurs publics, donc les finances publiques, acceptent de dépenser plus d'argent pour développer toute une série de, par exemple, de fibres optiques ou d'antennes d'interconnexion, afin que justement le secteur numérique puisse se développer. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est dans une phase où on réduit toutes les dépenses publiques, mais là-dessus, on ne les réduit pas, au contraire, on les augmente. Et alors, l'objectif, c'est quoi? Ben, l'un des objectifs, c'était de dire notamment que dans chaque pays européen, de plus en plus de gens devaient faire de l'achat en ligne et que notamment on devait arriver à convaincre une personne sur cinq, c'est énorme, une personne sur cinq, de faire de l'achat en ligne transfrontalier. Donc par exemple de convaincre un Français d'acheter via un site d'achat en ligne un produit qui n'est pas commercialisé en France mais par exemple qui est commercialisé, je sais pas, on va dire en Grande-Bretagne. L'objectif est toujours le même, c'est de nous habituer à utiliser Internet et toutes les nouvelles potentialités. Et donc l'objectif, il est politique, hein, donc il est écrit, c'est un cahier de charges politique. Et donc le but est de convaincre la population d'arriver à convaincre la population de faire ce genre d'acte pratique de consommation, dans le but justement que l'acte devienne naturel et qu'on ne le sente plus comme un acte qu'on nous impose, mais comme un acte qu'on a soi-même désiré. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un programme politique. Et donc quand on bascule là-dedans de son plein gré, en fait on répond à une demande politique et ça va m'orchestrer à travers toute une série de mécanismes.
Finalement on n'est pas libre quoi.
Et donc finalement, alors après on peut trouver ça très sympathique, hein, on est libre de trouver ça très sympathique, mais ce que je veux dire c'est que ce côté très sympa, en fait il est décidé de concert par l'industrie numérique et par les gouvernements qui ne nous disent pas un mot de leur entente sur ce point-là, manière à nous convaincre d'aller de plus en plus dans des usages d'Internet. Et alors le but c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a rendu par exemple l'acte d'achat en ligne quasi inné, naturel et automatique chez les gens, eh bien on va pouvoir leur vendre des frigos intelligents, donc des frigos qui seront équipés de puces numériques avec des produits à l'intérieur qui seront équipés de puces numériques. Et si vous êtes par exemple un grand consommateur de yaourt et que vous avez acheté 6 pots de yaourt, le frigo intelligent enregistre qu'il y a 6 pots de yaourt dans le frigo, vous en avez mangé 4, ben le frigo intelligent sait qu'il n'y en a plus que 2, il se dit bingo, je dois recommander. Et le frigo intelligent va se connecter sur une plateforme de vente en ligne et recommander automatiquement vos nouveaux yaourts. Et ça, ce n'est possible que dans un monde où on a habitué les gens à acheter en ligne, à trouver normal d'acheter en ligne. Mais je vais rappeler que quand on rentre dans ce genre de monde-là, mais on favorise des entreprises de vente en ligne qui n'ont rien à foutre des conditions de travail et qui n'ont rien à foutre d'offrir du travail à tout le monde, et qu'en même temps, on tue de l'emploi local à travers des indépendants, des PME, des petits commerçants qui, eux, dépendent de leur pub, des gens qui vont les venir voir sur place pour acheter des produits qui sont vendus dans leur magasin et qui vont vendre de moins en moins de produits parce que plus on va basculer dans l'achat en ligne, moins on se déplacera pour acheter un produit dans un magasin, moins on se déplacera pour aller voir quelqu'un dans l'administration. Et donc tout ça, ça annonce des suppressions d'emplois qui sont d'autant plus terribles qu'on ne va pas partager le temps de travail existant, mais qu'on va justement virer de plus en plus de gens pour garder un minimum de travailleurs. Alors voilà, le mot de la fin, ce serait peut-être aussi de dire que cette réflexion sur le secteur des nouvelles technologies, le but n'est pas de dire que tout est mauvais, mais le but c'est de dire ne croyez pas tous les messages publicitaires que vous recevez. Le monde de l'industrie numérique adore communiquer en disant on facilite les communications, on facilite la vie de famille, on facilite votre vie. Enfin, c'est toujours un monde où tout est merveilleux dans la communication.
La santé aussi, la santé. L'industrie du numérique permet des choses au niveau de la santé qui sont formidables.
Moi, ce que j'ai juste envie de dire ici aux gens, c'est ayez un regard un peu plus critique que ça. Rendez-vous compte que derrière le miracle qu'on est en train de vous vendre, il y a des logiques qui sont catastrophiques sur le plan environnemental. Or, on ne peut pas bien vivre sans une terre en bonne santé et la terre est en mauvaise santé. Il y a des logiques qui sont catastrophiques déjà aujourd'hui sur le plan social pour des enfants qui travaillent en Chine, en Asie, ou qui meurent carrément dans l'industrie minière en République démocratique du Congo ou ailleurs, pour fabriquer des objets qui ont donc du sang sur les mains. Il y a également des conséquences sociales catastrophiques qui s'annoncent demain si on supprime des tonnes d'emplois dans des secteurs différents, sans jamais se soucier de partager le temps de travail disponible qui va diminuer puisque les technologies, les nouvelles techniques vont permettre d'économiser du temps de travail. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est au-delà des messages publicitaires que vous envoie l'industrie numérique pour disant « mais regarde comme il est sympa mon smartphone, regarde comment il est sympa mon crédit, regarde comment tu pourras envoyer des SMS, comment tu pourras télécharger des vidéos, etc. » Rendez-vous compte qu'il y a un impact écologique, qu'il y a un impact social et adoptez peut-être un regard critique, informez-vous sur ça. Essayez d'exercer votre sens critique en achetant des bouquins qui en parlent de façon intelligente, en regardant, alors je vais faire la promo d'une émission comme Cache Investigation, faite par France 2 et qui raconte beaucoup de choses intelligentes sur l'envers du décor du monde de l'industrie. Et soit vous avez vraiment envie de ces objets, et alors essayez de développer des pratiques alternatives en utilisant des logiciels libres, en essayant de partager les outils informatiques que vous avez avec d'autres personnes de manière à diminuer le nombre d'achats par rapport au nombre de personnes qui utilisent ces objets, ou carrément, si vous en avez le courage, en vous passant parfois de certains objets informatiques. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on est dans un objet interconnecté, donc quand on n'est pas interconnecté, on n'est pas mode, on n'est pas in, on n'est pas people. Mais en même temps, c'est parfois aussi enrichissant de pouvoir se passer de certains biens et de redévelopper des rapports humains qui sont un peu différents.
Cette émission reportage est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Le morceau de rap que vous avez écouté en introduction est un morceau du groupe français Soul Connection. Il s'intitule « Il marche », c'est de la musique libre. Soul Connection est composé de trois rappeurs qui nous font partager leur point de vue sur le rap, ce qu'il a été, ce qu'il devrait être et particulièrement le rôle qu'il devrait jouer dans la société. Nous terminons d'ailleurs cette émission reportage avec Soul Connection et un autre morceau, Le peuple suffoque.
Je m'appelle Daniel, j'ai 60 ans, je suis à la retraite depuis un an, j'ai travaillé pendant 40 ans à l'usine.
L'avenir.
Un trou noir.
Je me dis, je vais le jour d'aujourd'hui et après demain, je sais pas.
Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce qui se présente.
Surtout pour les jeunes, trop nombreux, pas avoir de travail.
Je suis retourné dans l'intérim et là en ce moment je suis en CDD.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, c'est la faute du système. Justement, réinsérer les jeunes, leur donner du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça?
Écoute-les, ils ont tous leur histoire. Lis leur regard, ils la reflètent comme un miroir. Ils sont tous différents, mais tous semblables, innocents. Même si beaucoup portent des têtes de coupables, leurs conditions de vie expliquent ce même tablard. Phare, leur manque de perspective justifie ce même désespoir. Le destin sonne pour tous au même diapason. Pas besoin d'être de femme pour comprendre la situation. Ici, des femmes élèvent seuls leurs enfants, cumulent des jobs bidons pour les élever décemment. Ici, des jeunes sont pris pour des pigeons. Même du chômage en intérim avec un pompon. Des types paumés traînent toute la journée. Longue carrière de RMI, 40 balles et pas assez. Je parle de familles déchirées, d'hommes compressés. Des conséquences au manque, au droit du travail. Ils prétendent que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution. Mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, démantèlement des États souverains.
conscient du peuple, communauté et religion. Quelques indicateurs avant l'explosion.
Le peuple suffoque, asphyxie.
Enquête, trop de coups,
apoplexie.
Y'a plus de réflexe, puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Le peuple suffoque, asphyxie.
Enquête, trop de coups, apoplexie.
Y'a plus de réflexe, puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Ah, ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est bien entendu sa diversité. Donc il faut... C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous avons tant besoin de l'Europe.
Je vois ce que cachent tous ces discours.
Il est facile de diriger un homme qui ne réfléchit plus. Un homme isolé ou bien un homme corrompu. Tout le monde le sait, une banalité. Tout le monde est consterné. Le problème, le peuple tout entier est concerné. Parce qu'ils ont fait de nous un peuple désuni. Une agrégation d'hommes démunis et avilis. La technique se met le trou. Masquer les enjeux, créer des haines, jeter la poudre aux yeux. Ils nous divisent en petits groupes, en communautés. Nous hachons petits morceaux avec des identités. Substituent les problèmes de classe par des problèmes de race. Nous voilent la face avec mensonges et tours de passe-passe. Aujourd'hui le monde est en feu et à sang. La future puissance de paix nous mettra tous en rang. Peuple contre peuple pour faire de la chair à canon. Au milieu d'une guerre entre puissances sans conclusion. On veut nous faire croire que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution. Mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, puissance de paix, monnaie unique, intégration, droit du sang, clivage ethnique, abrutissement du peuple, langue et régionalisation. Quelques indicateurs avant l'explosion.
Le peuple suffoque, asphyxie.
Enquête, trop de coups,
apoplexie.
Y'a plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Le peuple suffoque, asphyxie.
Y'a
plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Ce micro-rebelle hebdo est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez participer à nos émissions, nous suggérer un reportage, qu'il est également possible de rejoindre notre équipe, que vous soyez expérimenté ou non, n'hésitez pas. Vous vous formerez en étant encadré par nos journalistes amateurs. L'échange de savoir, c'est aussi cela, l'éducation populaire. Vous pouvez également nous soutenir financièrement, adresser les chèques à l'ordre de micro-rebelles. Concernant nos émissions, consultez nos programmes sur microrebelle.fr, micro-rebelle, les deux mots au pluriel. Notamment, dimanche 16 octobre, deuxième partie de notre chronique micro-rebelle littéraire consacrée à la révolte des pendus de Betraven. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Pour terminer, en beauté, une autre composition du groupe Soul Connection, tirée de leur album De la révolte à la conscience, un morceau intitulé L'étoile du ghetto.
Il doit arriver une nouvelle créature céleste, une nouvelle étoile.
Et si nous voulons avoir une véritable influence, il nous faut bien utiliser tous les moyens qui se présentent.
Il paraît que je suis né avec un ballon collé au pied. Mon père m'a toujours dit, mon petit, c'était ta destinée. Surdoué au ballon, une flèche te fait des petits ponts. Individuel ou collectif au top, je suis le champion. Cramponné au pompon pour décrocher la tabane. Une place pour m'y l'accrocher au crampon, j'ai la fringale.
Une famille modeste, je viens d'un quartier modeste. Prêt à lâcher du lest pour quitter la vie qui me molesse.
Le Johnny du ballon prodige, comme lui j'enchaîne les tubes. En faisant des passes, marquant des buts, en faisant la pub. De contrat en contrat, de transfert en transfert, c'est l'ascension. Laisse faire, petit. Je pèse des millions, le fruit de mon talent se mesure en argent et j'investis. Le footballeur est chef d'entreprise travesti. Vous me direz, la morale dans tout ça quoi. J'ai trop de pognon mais si je le prends pas, c'est les autres qui le prendront, ça fonctionne comme ça. Alors je croque dans le fruit. Et plus je fais de profit et plus on m'applaudit. Mais pour m'acquitter, au droit d'entrer au club le plus fermé, je mets mon image au profit de ceux qui m'ont fait entrer. Prix à payer au service de politiques véreux. Un modèle pour éteindre le feu dans les banlieues. Et à leurs yeux, qu'est-ce que je suis? Le petit gris ou le petit black qui réussit pour éteindre le feu dans les banlieues. Jeter la poudre aux yeux et calmer le jeu. Talentueux, t'as peut-être ta place et tu retournes ta veste. Tu trouves ton compte alors tu restes.
Je suivrai cette étoile où qu'elle me conduise.
À tous les reporters du ghetto, aiguisez vos plumes, faites place, v'là.
L'étoile du ghetto.
Je fais la une des journaux, on parle de moi en modèle. On cite ma réussite en mettant en avant douceur et mon salaire annuel. Je vends du style de luxe, des produits made in esprit ghetto. Un loco ghetto, avec un slogan street ghetto. tiens bien la marque, c'est du 6-9 ghetto. Tu veux être dans le coup, vas-y crache tes euros. Depuis que je suis tout petit dans ma tête, je suis en mode business. Je rêvais business, parler business, bouffer business. Mon cerveau, une machine qui fait des billets sans cesse. Mes poches, des tiroirs caisse qui encaissent cash et en espèces. Et j'ai les crocs en gros gros, tu veux parler avec moi, KO. Seulement si ça rapporte gros, ça me fait jouir trop de voir. Tu sais, ton cœur envieux devant ma Porsche, chaud, rampant à mes pieds comme des clodos. C'était moi avant, maintenant on travaille pour moi. Multiplie mon rendement, bénéfice à plus de 100 compteurs quoi. Regarde bien, parti de rien, j'ai construit mon empire. Maintenant, la thune tombe sans que je transpire. On m'invite, je témoigne en tant qu'exemple de nos cités.
The ghetto superstar.
Ici tout le monde peut s'en tirer. Tu veux connaître les clés de la réussite, ok.
1. Comme repère, parle au nom de ta communauté.
2. Opportuniste médiatique, micro ouvert.
Et serre-toi sans pour faire tes affaires,
mon frère.
Je crois qu'il pourrait servir nos projets.
Pour éteindre le feu dans les banlieues. Jeter la poudre aux yeux et calmer le jeu. Talentueux, t'as peut-être ta place et tu retournes ta veste. Tu trouves ton compte alors tu restes.
Et toi du ghetto.
Et toi du ghetto. Et toi du ghetto. Et toi du ghetto.
Connexion,
sous connexion 2007
pour l'étoile du ghetto.
Ghetto.
Distinguer le vrai du faux,
l'étoile du ghetto.